Alors, bonsoir à tous. En tant que nouveau directeur de la BPI, je suis chargé de présenter la soirée. J'aurais préféré que ce soit Francine Figuère qui s'en occupe, dans la mesure où c'est elle qui est la grande prêtresse à la BPI, à la bibliothèque du Centre Pompidou, des activités culturelles à caractère littéraire et liées à la création. Enfin, je vais tenter de la remplacer en quelques mots. Je vais être extrêmement bref. Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir d'inaugurer ce soir un nouveau cycle de rencontres. Ce cycle s'intitule « La création à l'œuvre » et il fait suite à un cycle qui s'est terminé il y a quelques mois, qui était consacré à l'écriture et qui s'intitulait « Écrire, pourquoi ?». Le cycle que nous inaugurons aura trois premières soirées relativement rapprochées, puis nous espérons que par la suite il pourra prendre encore davantage son envol. Donc ce soir, nous recevons Gao Xingyang. Le 7 février, nous recevrons le grand photographe Martine Parr et le 21 mars, Claire Denis. Alors pourquoi un cycle attaquant de front, si je puis dire, la création, ainsi que sur la création, pour trois raisons. D'abord, parce que nous sommes au Centre Pompidou. Il est très important que la bibliothèque du Centre Pompidou resserre de plus en plus ses liens avec le centre. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas forcément évident. Hein. Les gens du livre et de l'écriture sont quelquefois, peut-être de leur propre fait d'ailleurs, un peu marginaux par rapport au reste du champ de la création, quelquefois un peu ombrageux par rapport au reste du champ de la création. Et il est tout à fait nécessaire que la BPI s'implique, hein, descende dans l'arène de plus en plus, dans l'arène de la création et de la pensée et de l'expression contemporaine. Ça, c'est la première raison. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons inviter des créateurs qui jouent, si je puis dire, sur plusieurs tableaux simultanément et qui, parce qu'ils sont créateurs, font feu de tout bois. La deuxième raison est qu'à une époque où le livre, la littérature peut-être, en tout cas le livre et une certaine forme d'écriture sont interpellés, se sentent parfois en crise, il est important que les gens du livre que nous sommes s'insèrent, rejoignent un mouvement beaucoup plus vaste de lecture et d'écriture qui intègre aux côtés de l'écriture au sens le plus traditionnel, l'écriture d'un livre et le plus, non seulement plus traditionnel, mais le plus fondamental à mes yeux, que les bibliothécaires que nous sommes, les gens du livre que nous sommes, rejoignent les autres formes de lecture et d'écriture qui se développent autour de nous. Hein, le thème du monde comme objet de lecture, comme objet d'écriture, de la vie comme lecture et écriture est un thème aujourd'hui de plus en plus important qui va sans doute se développer dans les années qui viennent. Et nous souhaitons, en tant que bibliothèque, apporter notre contribution à cette réflexion sur les écritures et les lectures. Et puis, la troisième raison qui nous motive, c'est une certaine idée, un peu paradoxale d'ailleurs, de la création. À une époque où on a encore, je ne suis pas sûr que ça dure encore longtemps, mais encore tendance à aborder la création, en particulier la création littéraire, à travers des problématiques de société, sociétale, politique, à travers des problématiques parfois communautaires. Nous pensons qu'il est important, par un mouvement de balancier, un peu paradoxal, mais qu'il est important de remettre en lumière une autre dimension de la création, qui est celle de l'individu. Hein, à une époque où on est tous conscients que l'individu s'insère dans un continuum, hein, je dirais l'individu totalement isolé, maître de lui-même du XVIIe, du XVIIIe siècle, a disparu. C'est aujourd'hui à nos yeux une fiction. Nous savons très bien que nous sommes immergés dans un continuum. Nous avons des liens très étroits avec les animaux, par exemple, thème extrêmement contemporain. Mais par un mouvement de balancier paradoxal que l'être humain aime bien, nous sentons que au bout du bout, créer, exister déjà tout simplement, exister vraiment, c'est toujours peu ou prou créer, et créer pour exister, c'est exister en tant que, en tant qu'individu, en tant que singularité. Hein. Donc ce thème de la singularité nous paraît extrêmement importante, même si elle peut sembler quelquefois un peu en porte-à-faux par rapport à certains débats d'aujourd'hui. Et nous souhaitons la revisiter. Et je dirais que c'est une des raisons, ce dernier point, pour lesquelles nous avons souhaité inviter en tout premier lieu Gao Xingyang, pas seulement parce qu'il est prix Nobel de littérature. Alors évidemment, nous sommes extrêmement fiers d'inviter un prix Nobel de littérature. Comme je le disais à Gao Xingyang, ça ne va peut-être pas vous intéresser, je le dis quand même, il se trouve qu'avant d'être ici, j'étais directeur de la Bibliothèque de Lyon, qui disposait d'un fonds, qui dispose toujours d'un fonds chinois extrêmement important, qui a des connexions très très étroites avec la Chine et la culture chinoise, du fait de l'existence à Lyon d'un institut franco-chinois que vous connaissez, qui a fonctionné dans les années 20 et dans les années 20 et 30. Et j'avais souhaité inviter à Lyon Monsieur Gao Xingyang et ça n'avait pas pu se faire. J'en avais été vraiment très très déçu et je ne m'attendais pas, devenant directeur de la BPI, à le voir en chair et en os, à l'inviter, à pouvoir le voir et discuter tout à l'heure, je l'espère, après la conférence avec lui. Donc je suis vraiment très heureux à titre personnel, en plus de l'honneur que j'ai, bien sûr, de l'avoir avec nous, ainsi que son traducteur. Noël, voilà, j'allais écorcher votre prénom, Noël Dutrait. Donc, nous l'avons invité en premier dans la série de notre cycle, précisément, mais je vais peut-être dire des bêtises, hein, veuillez m'en excuser immédiatement, précisément parce que, à la différence de la figure classique du dissident, hein, qu'il soit russe ou chinois, il se trouve que personnellement, j'ai assez bien connu cette mouvance de la dissidence à la fois russe et ensuite chinoise à Lyon. Contrairement à l'image que l'on a du dissident qui, à travers son écriture, fait des proclamations, hein, des proclamations de dissidence ou en dissidence, Gao Xingyang va beaucoup plus profondément au cœur même du problème, de la question de la liberté, hein, la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de l'homme seul, solitaire, face à lui-même, face au monde qui l'entoure, aux autres, mais également face à lui-même. Donc, il y a dans l'œuvre de Gao Xingyang, il n'y a pas de concession, hein, quant à au fait qu'il faut, défendre est un petit peu trop marqué, finalement. Non, il faut manifester, exprimer cette liberté de sa propre singularité, en quelque sorte, contre vents et marées. Et la vraie dissidence, au fond, c'est ça. Hein, enfin, c'est en tout cas comme cela que je comprends l'un des aspects de l'œuvre de Gao Xingyang. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de vous avoir et nous allons maintenant vous écouter, dialoguer autour de la création. Alors, j'ai oublié de dire, mais tout le monde le sait ici, vous êtes romancier, écrivain, mais vous êtes aussi un essayiste, un théoricien de la littérature. C'est d'ailleurs ce qui vous a été reproché. C'est un des reproches qu'on vous a fait pendant la Révolution culturelle. Hein. Vous théorisiez la modernité littéraire, mais vous êtes aussi un auteur de pièces de théâtre et également peintre. Je crois que vous avez actuellement, ça a été inauguré, le vernissage a eu lieu samedi, je crois. Je vais m'empresser d'aller voir cette exposition cette semaine. Vous exposez vos œuvres à la galerie Claude Bernard. Donc vous faites partie effectivement de ces créateurs polymorphes, si je puis dire, que nous allons célébrer dans ce cycle. Voilà, j'ai trop parlé, merci beaucoup et bonne soirée à tous et j'espère que nous vous retrouverons lors des prochaines séances de ce cycle qui démarre aujourd'hui. À vous.
Alors j'avais prévu pour commencer cette présentation, de reprendre les quelques phrases qui se trouvent dans le petit dépliant. Mais puisque on vient déjà de déterminer quelle sera la thématique de cette soirée, je ne reviens pas dessus. Je trouve que pour ouvrir ce cycle de conférences, le choix de Gao Xingdian était des plus judicieux, puisque lui-même, comme on vient de le rappeler, pratique plusieurs arts et la manière dont il répondra aux questions que l'on vient d'évoquer, pourra servir d'introduction finalement aux autres rencontres. En effet, né en 1940, Gao Xingdian a grandi à la fois à l'époque de l'arrivée de l'influence occidentale en Chine, au moins dans les grandes villes comme Shanghai ou Nankin, à la fois au moment où la Chine subit l'invasion du voisin japonais, puis au moment de faire un choix pour sa formation, pour sa propre formation, il est confronté à l'idéologie marxiste qui est devenue idéologie d'État à partir de 1949 et qui va contrecarrer ses projets qui étaient de se lancer dans la peinture. Sa mère inquiète, lui dit « Attention, la peinture, elle est au service de la propagande, c'est le premier art au service de la propagande, tu risques d'avoir des ennuis en faisant de la peinture. » L'histoire de Cao Xingdian, par la suite, se confond avec celle de la Chine. Il est diplômé de français avant le déclenchement de la prétendue révolution culturelle en 1966. Ça, c'est très important. Il est déjà diplômé avant la révolution culturelle, ce qui n'est pas le cas des écrivains un tout petit peu moins âgés que lui. Et il est envoyé à la campagne pour subir la rééducation des masses populaires, à l'instar de nombreux intellectuels dont les origines de classe étaient douteuses aux yeux des autorités communistes. Tenté pendant un certain temps par la rébellion contre l'ordre établi qu'a représenté cette révolution culturelle, il découvre rapidement que les dés sont pipés et que chaque individu est manipulé par le grand jeu de la politique et de l'idéologie. Ce sera plus de 20 ans plus tard le sujet de son deuxième roman, Le livre d'un homme seul, publié en 2000, juste avant que le prix Nobel de littérature ne lui soit décerné. Son œuvre maîtresse dans le domaine de la littérature reste bien sûr « La montagne de l'âme », publiée à Taïwan en 1990 et traduite en suédois puis en français en 1995. Dans cette œuvre inclassable qui mélange récits de voyage, réflexions historiques et philosophiques, autofiction, souvenirs, écriture automatique, contes et légendes anciens, récits au fil du pinceau, et bien d'autres choses encore, Cao Xingdian aborde les questions essentielles de l'existence, de l'amour, de la mort, du souvenir et, justement, de l'acte de création. « Ce n'est pas un roman », s'exclame au chapitre 72 le critique littéraire grincheux. Au sein même du roman, un critique littéraire grincheux fait de la critique littéraire. Au sein même de son roman, l'auteur tente une critique de celui-ci pour ouvrir la voie à un nouveau roman chinois qui n'existait encore nulle part à cette époque. Si le choix de Cao Xingdian pour ouvrir ce cycle de rencontres est également judicieux, c'est en raison de l'activité créative extrêmement diversifiée de cet artiste. En effet, dès le début des années 1980, il revient à sa passion pour la peinture et découvre que si la peinture à l'huile a déjà ses lettres de noblesse en Occident qui laissent peu de place à une créativité nouvelle, le maniement de l'encre de Chine et du pinceau, en revanche, laisse des possibilités totalement nouvelles qu'il va s'efforcer de rechercher jusqu'à présent, le dernier exemple en date étant la remarquable exposition qui se tient actuellement à Paris, à la Galerie Claude Bernard, qui a été inaugurée jeudi dernier. Une autre facette de la création artistique de Cao Xingdian, la plus connue sans doute dans son pays d'origine, c'est l'expression dramatique, l'écriture théâtrale et la mise en scène. Dès le début des années 1980, il écrit des pièces de théâtre et les met en scène au Théâtre d'art de Pékin, déclenchant aussitôt les foudres des gardiens du temple communiste, qui venaient de lancer la lutte contre la pollution spirituelle. Non seulement Cao Xingdian a continué dans la voie de la création théâtrale, mais il a même, une fois installé en France à partir de la fin de 1987, pratiqué l'écriture de ses pièces de théâtre directement en français. Plusieurs de ses mises en scène ont été vues en France et dans de nombreux pays du monde, bien avant le prix Nobel de 2000. Et plus récemment, on a pu voir à la Comédie française sa pièce « Quatre quatuors pour un week-end », qui avait été jouée au Théâtre du Vieux-Colombier, ou plus récemment à Paris aussi, une nouvelle mise en scène d'une pièce magnifique qui s'appelle « Au bord de la vie ». Il a également élaboré une théorie de la création théâtrale dans un recueil d'entretiens avec Gilbert Fong, spécialiste du théâtre à Hong Kong, qui est paru l'année dernière et qui n'est pas encore traduite, au moins en français. Et enfin, il a réalisé déjà deux films, « La silhouette sinon l'ombre », ainsi que « Après le déluge » que nous verrons tout à l'heure à l'issue de cette discussion. Là aussi, il recherche des voies nouvelles pour l'expression artistique cinématographique. À travers l'œuvre considérable de Cao Xingdian, s'est élaborée peu à peu une conception esthétique originale, unique, en marge des grands mouvements artistiques et politiques du siècle, du XXe siècle puis du XXIe siècle, sur laquelle Cao Xingdian lui-même s'est souvent exprimé à travers des articles, rencontres et discussions. Et il a aussi écrit un recueil de textes qui s'appelle « Au sujet de la création », publié en 2008 à Hong Kong et Taïwan, que l'on peut considérer comme une sorte de bilan de cette vie de création et de toutes les idées qu'il a développées au cours des années passées. Donc, on se trouve maintenant, nous sommes en janvier 2011, et il y a 23 ans, Cao Xingdian s'est installé définitivement en France en décembre 1987, donc, et à partir de 1988, il a commencé une nouvelle vie de création, patiemment, où il a monté ses pièces de théâtre, il a organisé ses expositions, il a écrit, terminé La montagne de l'âme et écrit d'autres romans et nouvelles qu'il nous livre petit à petit dans son style tout à fait spécial, immédiatement reconnaissable. C'est comme ça qu'on reconnaît un grand artiste, à mon avis. Dès qu'on lit une page de Flaubert, on ne peut pas se tromper, il s'agit bien de Flaubert. Et toutes les disciplines sont donc touchées par Cao Xingdian. Il me disait tout à l'heure, peut-être la poésie encore, il a encore beaucoup de choses à dire en poésie. Et peut-être qu'un art lui échapperait, ce serait la musique, mais on va en parler tout à l'heure. Dès 1997, il obtient la nationalité française et donc vit maintenant une vie d'artiste français d'origine chinoise. Il a souvent insisté sur ses trois vies, la vie qu'il a connue lorsqu'il était en Chine, la vie qu'il a connue, la deuxième vie qui était un peu, c'est la vie qu'il a eue avant le prix Nobel, puis après le prix Nobel, qui lui donne une espèce d'aisance, une espèce d'ouverture des portes pour pouvoir tout ce dont il avait toujours rêvé. C'est-à-dire que ce que nous voyons maintenant, c'est des choses qui ont été rêvées depuis des années et des années. Décorer une chapelle, par exemple, je me rappelle quand on en parlait depuis très longtemps, j'ai envie de décorer une chapelle, il l'a fait à Marseille, à la Vieille Charité, et bien d'autres projets encore. Alors, j'ai envie de lui poser, bien sûr, les questions fondamentales qui sont l'objet de ces séances. Comment comprendre le processus de création artistique? Qu'est-ce que créer? Toutes ces questions qui vont nous intéresser pour la soirée. Donc, peut-être au début, d'où vient, j'ai envie de lui demander... comment est-ce qu'on peut tenter résoudre cette énigme que constitue la création, quelque chose d'unique finalement à l'espèce humaine, d'où vient cet acte de création artistique?
La création, c'est pas pour la création d'abord. Et je pense au fond, pour tout artiste ou bien écrivain, si on écrit ou bien si on peint, si on faire une création artistique, je pense d'abord au fond de lui-même, il est pour une nécessité. Voilà. C'est un besoin qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas résister. On est obligé de faire quelque chose parce qu'on a quelque chose à dire. Voilà, devant ce monde-là, face à ce monde, face à cette réalité souvent absurde. Moi, je trouve l'absurdité, ce n'est pas une réflexion philosophique, c'est la réalité. L'absurdité, c'est la réalité. C'est ce que, dans mes pièces de théâtre, souvent, on appelle aussi un théâtre absurde. S'il y a la différence du théâtre Beckett, plutôt, il est très philosophique. Moi, c'est plutôt très, très, comme dit-on, réel. Je pense que cette absurdité, c'est la nature de la réalité. Voilà. Alors, face à cette réalité, ou bien, on peut dire autrement, l'absurdité, voilà, un individu si faible, fragile, voilà, une vie passagère, c'est courte, et voilà, comment peut-on faire? Je crois qu'on a déjà passé ce XXe siècle, on a une illusion, voilà. Au cours du XXe siècle, on croyait que l'homme, l'individu, peut changer le monde. voilà, d'où vient toutes sortes de révolutions. Voilà, on croyait que oui, voilà, on peut changer le monde, on a créé toutes sortes d'utopies, et finalement, ces utopies comme le grand utopie communiste, finalement, devient un très très grand cauchemar. Voilà. Et voilà, ça c'est sans exception. Voilà, partout en Europe, comme en Asie, comme d'autres endroits, par exemple, même c'est Sud-Amérique. Voilà, sans exception. Voilà, c'est ce genre de grand utopie, mais créé aussi par l'homme. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde? Je crois non. Voilà. Si on nous a donné une leçon au XXe siècle, je pense que c'est on doit reconnaître un individu, c'est fragile, devant cette réalité, cette absurdité, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un artiste, on peut quand même faire quelque chose. Si l'homme, l'individu, prend la liberté dans ses mains, c'est pas, on ne demande pas la liberté à d'autres, à la société, à la politique, ou bien à la révolution, ou bien aux masses, au peuple, voilà, ou bien à la justice. Voilà, tout à fait souvent, c'est abstraite, cette justice, où on ne sait pas où il y en a, cette justice. Voilà. Et si on demande à quelqu'un à vous donner la liberté, non, c'est impossible. Voilà. Si vous demandez de changer ce monde-là avec une utopie, un parti politique, non, finalement, on est tombé tout de suite aussi dans l'absurdité. Dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on peut faire réellement, l'homme, un pauvre individu? Je pense à la création artistique. La création, la littérature, la musique, la peinture, ça, c'est un homme capable de faire. Parce que si cet homme-là se débarrasse de l'illusion d'utiliser l'art pour changer le monde, voilà. Si simplement l'art pour lui, c'est les propos, une expression pour montrer, pour confirmer cette existence humaine si difficile, dans des conditions si compliquées, mais quand même, on peut avoir une voix particulière de cet individu-là, ça s'explique la création artistique et littéraire.
Et dans ce contexte donc de création, d'où viennent tes sources d'inspiration? Parce qu'on parle toujours de l'inspiration à ce moment-là. Comment est-ce que l'artiste, il ne peut pas partir de rien, il faut bien partir de ce que les autres artistes ont créé, ont fait. Est-ce que là-dessus tu peux nous éclairer sur les sources d'inspiration?
Ouais, mais l'inspiration, je pense d'abord, ça vient de la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Voilà. C'est pas, la création, c'est pas. Moi, je ne suis pas d'accord. La création, l'art, c'est la forme. Voilà. L'art, c'est un certain concept. Voilà. Ça, c'est, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'esthétique. D'après moi, tout l'art, toute création artistique, littérature y compris, ça vient de la vie, voilà, de la vie humaine. Voilà. Et la vie humaine dans une condition, dans des conditions tellement compliquées, voilà, dans les difficultés existentielles. L'homme, ça c'est la base de la création. Parce que voilà, devant tant de difficultés-là, alors comment une vie peut exister? Voilà. Je pense que ça, c'est une question fondamentale, une quête profonde. Voilà. Toutes les inspirations, ça vient de cette quête. C'est d'abord. D'abord, il faut avoir une vie. Si on n'a pas cette vie, comme dit-on, ça ne vient pas à une manipulation de l'esprit, voilà, des idées, de concepts. Ça vient d'abord de la vie réelle. On doit vraiment vivre, voilà, pour avoir des inspirations. C'est la base. Et puis, voilà, devant nous, on n'est pas isolé. devant nous. Il y a tant de créations, tant de... Derrière, il y a un héritage de la culture. Il y a tant des œuvres artistiques déjà créées par les autres individus. On a aussi vécu, alors c'est pourquoi on a aussi laissé une expression pour montrer, pour affirmer cette existence de ces individus-là. Voilà. C'est une riche référence pour l'artiste. Voilà. L'artiste, comme tous les autres, on est un individu, on est humain. Voilà. C'est communicable. Tout ce qu'on a créé devant lui, avant lui, ça c'est... C'est pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est l'art, c'est la subversion, la révolution. Non, je ne crois pas. Voilà. On ne peut pas faire la table rase de notre héritage culturel. Parce qu'on est nourri par cette culture. Voilà. Même cette culture universelle, ce n'est pas seulement une culture d'une nation. Parce que la culture, finalement, est basée sur la nature humaine. Voilà. C'est communicable. C'est traduisible. Voilà. Ce n'est pas seulement pour un certain pays ou bien une certaine culture. Je pense au fond, si c'est une grande culture, si c'est une grande littérature, et là aussi, c'est communicable finalement universellement. Voilà. Dans ce cas-là, on est devant nous. Voilà. Nous avons une richesse de ce patrimoine de la culture mondiale. Devant nous. C'est pas seulement on est nourri par une culture comme moi, c'est pas seulement mes propres expériences, c'est pas seulement parce que je suis nourri par la culture chinoise. Non, depuis mon enfance, j'ai déjà aussi une influence de la culture occidentale et d'autres pays asiatiques, les Indiens, les Japonais, et aussi je m'intéressais aussi à la culture même africaine, voilà, quand on a des moyens de connaître. C'est pourquoi on est nourri par cette culture universellement, voilà, humaine. Et cette richesse, c'est notre création, la base qui nous inspire aussi, voilà, qui nous suggère, qui nous pousse à créer. Alors, dans ce cas-là, la création artistique, je suis tout à fait contre cette idée-là. Ça, c'est... Tout geste de création artistique, c'est une subversion. C'est faire table rase des autres, des précédents. Mais c'était très en vogue, voilà, au XXe siècle. Mais cette conception historique sur l'art, non, je ne suis pas d'accord. Parce que cette conception est aussi basée sur l'idéologie, très marxiste. Derrière, il y a une conception historique sur l'histoire. Voilà, c'est le progrès, la révolution, c'est les locomotives, c'est la force qui fait l'évolution de l'histoire là. Ça c'est et aussi ce mythe du progrès, tout ce genre de conception marxiste. Moi, je ne suis pas d'accord par mes propres expériences, aussi par mon travail. Je pense à, j'ai un grand respect et un grand admirateur de tous les grands créateurs, grands écrivains. Si on me demande souvent ce qu'elle est, quel auteur ou bien quel artiste vous inspire le plus, voilà, qui sont les privilégiés. Franchement dire, j'ai vraiment des difficultés de dire lequel. Je dois donner une liste. Je dois dire c'est la bibliothèque. C'est vraiment, voilà, ça c'est depuis l'Antiquité. Voilà, c'est, oh mon Dieu, voilà, vous aimez, voilà, vous êtes inspiré par la culture française, oui, aussi, y compris la culture française. Qui vous avez inspiré le plus? Je dois dire depuis vraiment Chanson Roland. c'est la bibliothèque. Voilà, c'est la bibliothèque. Ça, c'est qui les artistes les plus. Vous avez marqué, bon, tous les grands chefs-d'œuvre. Tous les grands maîtres de Renaissance, même on remonte à l'époque grecque, voilà, en Occident, aussi dans l'Antiquité asiatique. Bon, il y a toutes les merveilles de la culture universellement, voilà, connu, si on a des moyens d'y accéder, voilà, m'inspire. Voilà, si... Et finalement, le travail de l'artiste, je pense, c'est l'inspiration, ce n'est que le début. Voilà. Le reste, c'est l'artiste à trouver son propre expression.
Mais par rapport à la situation qu'a connue la Chine, puisque en Chine, le mouvement du 4 mai 1919 a repoussé la tradition, pas forcément tous les écrivains n'étaient pas marxistes à cette époque-là, pour dépoussiérer un peu la tradition. C'est à partir de quel moment as-tu réalisé finalement la tradition ne devait pas être repoussée, la tradition chinoise? Est-ce que ça a été dès le début des années 1980 ou même plus tôt? Est-ce que tu avais quand même une admiration très forte pour la littérature traditionnelle chinoise?
Depuis mon enfance, quand je commence à lire très tôt, moi je commence à lire très tôt grâce à ma mère. Voilà. Je commence à écrire. Je me souviens, c'est la première écriture, c'était à l'âge de 8 ans. Ouais, quand j'étais tout petit, en même temps, je commence à dessiner pour m'amuser, un enfant. C'est pourquoi ça commence très très tôt. Et je lis, et j'ai aussi j'ai des moyens, voilà, depuis mon enfance, d'accéder pas seulement à la littérature classique, grand classique chinoise, aussi à la littérature occidentale, parce que ma mère a un amour de romans occidentaux. Elle faisait le théâtre à l'occidental, c'est le théâtre, nouveau théâtre parlé, voilà. C'est pas le théâtre traditionnel, l'opéra traditionnel. Voilà, ça, chez nous, il y a des livres. Je lis de très très jeune déjà les romans de ma mère. Si c'est la littérature occidentale. Et mon père a une passion pour les grands classiques chinois. C'est pourquoi chez nous, il y a aussi des grands auteurs classiques, des grands livres. C'est pas difficile. C'est pour depuis mon enfance, je suis nourri par la culture chinoise classique et en même temps la littérature occidentale. Je dois dire ça, c'est quand j'étais tout jeune, j'ai déjà lu beaucoup, même des grands auteurs occidentaux. Et voilà, je connais très 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 bien quand j'étais tout jeune, un petit lycéen, j'ai déjà connu Balzac, Flaubert, Zola, c'est déjà. Et sans parler des auteurs français, et aussi les Russes, anglais, italiens, espagnols même. J'étais un lycéen, j'ai déjà lu Don Quixote. Même j'ai fait des illustrations des Don Quixote. ce pauvre chevalier avec son âne. Voilà, j'ai déjà fait des caricatures pour illustrer. Voilà, mais tous ces dessins-là de mon enfance, c'est déjà... définitivement a disparu.
Pour en finir complètement avec cette question de l'inspiration, je me souviens que quand j'ai commencé à traduire La Montagne de l'âme en 1991, à partir de 1991, tu m'avais dit, est-ce que tu avais lu Georges Perec? Tu m'avais conseillé de lire Un homme qui dort de Georges Perec. Donc ce serait encore un autre stade d'inspiration peut-être.
Oui, ça c'est plus moderne, ça c'est contemporain. L'auteur contemporain, aussi, voilà. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps de lire les auteurs contemporains. Et à ce moment-là, j'étais très, très impressionné aussi par Perec. Voilà. Je trouve que c'est son livre, par exemple, son petit livre, L'homme qui dort, et l'écriture est tellement libre, souple et aussi musical. Ça coule tellement bien. Voilà. Ça correspond aussi à mon esprit sur la langue. Je pense que la langue, ce n'est pas rhétorique. D'abord, ce n'est pas rhétorique. Voilà. Si rhétorique, c'est, on soigne l'écriture. Mais la langue, d'abord, c'est une voix humaine. Voilà. Derrière toute l'écriture, s'il y a une vraie écriture, c'est une voix intérieure. Mais on doit entendre cette voix-là. Mais le texte de Berg, on entend. Il y a une vraie voix qui parle. Voilà. Alors on sent ses souffles. Et aussi, bien sûr, on sent cette musicalité du français. Voilà. Parce que ça, c'est une vraie voix et très musicale. Si on dit une langue, c'est d'abord, c'est une voix, langue. Voilà, c'est qu'on parle, pourquoi on désigne la langue, c'est le même mot de la langue. C'est d'abord une voix. Souvent, il y a certains écrivains, on a oublié. Voilà, on a trop recherché voilà, le style, oui. Ou bien rhétorique, et même ça, on a oublié la sonorité, cette musicalité, une vraie voix humaine. Mais Perec n'a pas oublié. Il a un style très recherché, mais il n'a pas oublié ce voix-là. Il a bien mis en valeur de cette voix humaine dans son écriture.
Alors, il y a une autre caractéristique de la Montagne de l'âme, c'est que certains passages font appel finalement à une espèce d'écriture automatique, puisque à la fin d'un des chapitres, le narrateur dit le clignotant du... Il y a une lumière rouge du magnétophone dans le fond de la pièce. Donc, manifestement, le narrateur a enregistré sa voix et ensuite a retranscrit. Donc alors là, c'était une inspiration différente, une inspiration qui ferait penser presque à l'inspiration des écrivains surréalistes qui pratiquaient l'écriture automatique. Est-ce que ça, tu ne l'as pratiqué que dans La Montagne de l'âme ou c'est autre chose, ou il t'est arrivé d'utiliser ce procédé dans d'autres textes?
Oui, je souvent utilisais le magnétophone. Quand j'en ai, premier magnétophone, à ce temps-là, je commence à utiliser et j'enregistre. Et parce que je fais le théâtre aussi, parce que le théâtre c'est la voix, c'est la vraie voix. Si on s'exprime, on doit entendre. Voilà. Si une phrase, c'est pas seulement une phrase, les mots. Voilà, la tonalité, voilà, quelle façon qu'on parle, c'est une richesse dans la langue, dans cette façon de s'exprimer. Il y a multiples choix, voilà, possibilités. Il faut entendre cette voix-là. C'est pourquoi s'il y a cette invention voilà, de magnétophone, c'est génial, vraiment. Ça, c'est quand j'ai eu le premier magnétophone, c'était la première fois que j'étais en France. Voilà, c'était, à ce temps-là, j'étais interprète. Alors, on a argent de poche. Voilà, j'ai acheté le premier magnétophone. C'était juste la fin de la révolution, après la fin. Révolution culturelle, dit-on culturelle. et après mon retour, j'ai eu ce petit magnétophone. Alors, je commence à enregistrer. Et quand j'écris une pièce de théâtre, y compris les essais, sans parler du roman, souvent, les premières ébauches, c'est les cassettes. Et bien sûr, dans l'écriture de la... ce roman La Montagne de l'âme, j'ai beaucoup utilisé le magnétophone. Et par exemple, il y a l'autre texte, Une canne à pêche pour mon grand-père. Cette nouvelle-là, on a déjà aussi publié la traduction française aussi. Et c'est en une nuit. Voilà, j'ai écrit, voilà. J'arrive pas à dormir parce que les mots, les phrases arrivent. Je prends un magnétophone, j'enregistre jusqu'au petit matin, j'ai dormi. Et le lendemain, je réécoute. Voilà, c'est excellent. Excellent. Et presque, j'ai pas vraiment changé. C'est phrase par phrase, je transcris. Et puis après, un peu de retouche. C'est magnifique, c'est le roman, c'était ça. C'est pourquoi c'est aussi, c'est lié à après j'ai fait la théorie, toutes mes théories sont venues de mes vraies expériences de l'écriture. Si c'est, j'appelle ça, ce genre de l'écriture, j'appelle ça le courant de la langue. Je pense que c'est, en fait... Si on n'isole pas par les points, les véhicules, les phrases, c'est coupé, stoppé par les points. Mais en fait, ça coule comme la rivière. Voilà. Les pensées, la pensée, ça coule. Voilà. C'est pourquoi j'appelle ça c'est un courant voilà, de la langue. Je pense que ça peut se réaliser dans l'écriture littéraire. Voilà. la montagne de l'âme. Et d'abord, avant la montagne de l'âme, c'est une canne à pêche. C'était déjà ma première réussite de ce genre de l'écriture.
Et donc on en arrive peut-être à la création théâtrale maintenant, l'autre facette extrêmement importante de toute ta vie d'artiste, puisque dès le début des années 80, on a vu monter au Théâtre d'Art de Pékin des pièces de théâtre complètement atypiques, hein, qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et je me souviens qu'à cette époque-là, le critique littéraire du Monde avait vu Arrêt d'autobus et avait dit « ça y est, c'est la naissance du théâtre de l'absurde en Chine ». Voilà, son article est tout à fait consultable dans les archives du Monde. Et malheureusement, très rapidement, la pièce avait été interdite. Donc là, l'inspiration, peut-être qu'elle venait, il y avait peut-être du Ionesco, du Beckett. Est-ce que c'était vraiment une inspiration ou non? Ça a été pas mal discuté par la suite. Et simplement, c'était un théâtre qui, là, est devenu impossible, puisqu'il t'a attiré tous les ennuis possibles de la bureaucratie communiste.
Oui, avant, j'ai déjà lu Beckett, puisque j'ai appris le français. J'ai lu aussi Ionesco. Avant d'écrire cette pièce-là, et même si j'ai traduit à ce temps-là en cachette, parce que c'était la révolution culturelle n'est pas encore finie. Mais si je reste au bureau, j'étais à ce temps-là déjà rappelé de Pékin pour reprendre mon travail de traducteur. Mais ce que je traduis, c'est les documents du parti. C'est tout à fait les actes de propagande. De l'édification socialiste, tout ça, pour la propagande à l'étranger. Voilà, il y a une très, très grande entreprise de traduction en presque toute langue du monde. Et voilà, ça, c'est une géante institution d'État. À l'époque, je travaille en tant que traducteur. Mais la soirée, la nuit, voilà, qu'est-ce que... Je pouvais faire. Voilà. À ce temps-là, ça c'est pour m'amuser. C'est pas impossible d'être un jour publié cette traduction. Même, j'ai pas une ambition de publier tout ça. Non, c'était impossible. Mais je traduis. Je m'amusais. Traduire cantatrice chauve.
Oui.
Je m'amusais, oui, c'était ça. Oui, c'est pourquoi je connais bien les auteurs de théâtre de l'absurde, y compris Genet. Voilà. Avant que j'écris cette pièce-là, l'arrêt de bus. Mais ce qui a de différence, pour moi, c'est l'arrêt de bus, je m'amuse. Voilà. C'est une plaisanterie. Parce qu'à l'époque en Chine, comme aujourd'hui, on n'a pas vraiment la liberté d'écrire quelque chose de très sérieux. Voilà. Et comme Beckett, c'est très tragique. Non, moi, je fais une plaisanterie. C'est pourquoi je pense que ce théâtre de l'absurde, ça peut être aussi une comédie. Voilà, une comédie tout à fait burlesque. Ça, c'est ma pièce, Arrêt de plus, c'est burlesque, c'est comédie. Voilà. Mais ça fait rire. Quand on joue à Pékin, à ce temps-là, tout le salle, on rit. Il y a une seule personne qui ne rit pas. Voilà, c'est le secrétaire du parti, envoyé de l'Association des écrivains nationales, parce qu'on est au courant. Il y a un spectacle tout à fait dérangeant. Voilà, il est venu. Voilà, il est secrétaire du parti, de l'Association des écrivains nationales. Il est venu, puisqu'il est venu, voilà, il dit, oh, bon, c'est un homme très, très important, camarade, il est venu, camarade, dirigeant est venu. Moi, l'auteur doit accompagner. Voilà, je suis à son côté, je regarde, tout le monde rit, lui, il ne rit pas. Quand il ne me salue pas. Quand il est parti, il dit, oh, la camarade t'a-t-elle, et vous avez quelques remarques à faire? Non, il ne me répond pas, il est parti. Je me sens immédiatement, oui, ça va. Le catastrophe va venir. Voilà, c'était vraiment, et puis tout de suite, le spectacle a été interdit.
Avec quand même, il faut le dire aussi, des grands écrivains de l'époque qui ont, qui ont soutenu et qui ont dit non, non, le jeune Chaos Indien a quelque chose à dire, mais sans que ça ait aucune efficacité, puisque quand même l'interdiction est arrivée. Alors, par rapport à ce théâtre plaisanterie, j'aime bien cette expression, après ton installation en France, tu écris plusieurs pièces de théâtre directement en français, qui sont des pièces beaucoup plus profonde, disons, et beaucoup moins plaisanterie, ça on peut le dire. Encore que, il y a des passages, le personnage, par exemple, de l'autre rive, le personnage masculin, qui n'est qu'un pantin, pendant que c'est le personnage féminin qui a tout le rôle et qui exprime son mal-être et sa difficulté de vivre. Une chose est très surprenante dans « Au bord de la vie », c'est l'utilisation des pronoms personnels. Puisque le personnage principal, la femme, ne dit pas « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », mais le personnage féminin s'exprime en disant « elle dit qu'elle a eu une enfance malheureuse, elle dit qu'elle s'est disputée, elle dit que… » Elle parle à la troisième personne. Alors peut-être que tu pourrais rappeler ce parti pris que tu as eu à un moment d'utiliser les pronoms personnels et toujours cette mise en distance du personnage par rapport… à l'acteur qui joue.
Ça vient d'une conception sur une observation d'abord sur l'art de jeu du comédien. Pour moi, ça c'est le comédien sur la scène, c'est pas le personnage, c'est le comédien qui joue son personnage. Voilà, on cache pas son identité de comédien. Voilà. Dans ce cas-là, immédiatement, il y a un rapport, il y a une distanciation entre l'acteur et son rôle. Mais il y a encore une autre chose qu'on a souvent oubliée. Et parce qu'acteur sur la scène, ce n'est pas vraiment la vraie personne dans la vie. Il y a encore une vraie personne dans sa vie et sa manière d'agir, sa manière de parler, et voilà, son tempérament, ça, c'est, toutes ses manières, y compris toutes ses maladies. Mais ça, c'est une fois sur la scène, il change. C'est pas la vraie personne comme on voit dans sa vie. Voilà. Ça veut dire qu'il a déjà changé en un acteur neutre. Voilà. Il y a une neutralisation de toute sa personnalité à côté, il est mis à côté. Ça commence déjà le jeu. Voilà. Et avant qu'ils attaquent son rôle. Voilà, ça c'est que j'appelle ça, il y a trois étapes, j'appelle ça c'est un triple, là, il y a triple jeu dans l'art de jouer, voilà, dans l'art de jeu des comédiens. Voilà, mon théâtre est plutôt basé sur cette observation. C'est pourquoi le texte peut être écrit, par exemple, en troisième personne. Et parce que ça c'est le comédien qui présente. Voilà, un personnage devant le public. Et d'ailleurs, c'est l'essence du théâtre. Le théâtre, c'est un lieu de rencontre avec le public. Sans public, il n'y a pas de théâtre. Voilà. Sans comédien, il n'y a pas de théâtre. Voilà. Le comédien présente son rôle voilà, devant le public. Voilà, c'est un jeu, comme ça. Alors, mon théâtre, basé, plutôt souligne voilà, cet aspect-là. Ce qui est l'essentiel de l'art dramatique. Dans ce cas-là, ça s'explique pourquoi j'écris le texte, les paroles en troisième personne. J'ai écrit, par exemple, aussi d'autres pièces, par exemple, le somnambule. L'acteur, tous les textes, c'est écrit en deuxième personne, tu. Voilà. L'acteur parle « tu », ça peut « tu », ça peut désigner le rôle qu'il interprète. Voilà. Ce « tu », ça peut être le public. Voilà. Voilà. C'est compliqué, mais c'est déjà un art dramatique. Voilà. Même dans la dramaturgie, voilà. Ça crée, ça exploite plutôt, explore le potentiel de jeu de comédien. Voilà. Voilà, je pense que le comédien sur la scène est beaucoup plus libre. Et aussi, ça, c'est les autres personnages parlent aussi en dû. La pièce, il y a l'ensemble, il faut 7 comédiens. Voilà, tant pour ce truc-là. Et tout le monde parle en dû. Voilà, c'est encore plus compliqué. Mais si on fait la mise en scène, je pense, chaque metteur en scène, si on a bien compris l'enjeu, on peut faire voilà, multiples sortes de mise en scène et on peut jouer tout à fait différemment. Je pense que c'est très, très dramatique et c'est très théâtral aussi.
Alors, ce qui est curieux, c'est que là, tu expliques des procédés qui sont finalement dans des pièces où il y a 2 personnages, jusqu'à 7 personnages. Mais tu as aussi un autre aspect de ta création théâtrale qui consiste à essayer de chercher un théâtre omnipotent, un théâtre total qui rassemble l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut mettre sur scène finalement, aussi bien d'un jeu dramatique, aussi bien des clowns, aussi bien des prestidigitateurs, aussi bien des acrobates, etc. Et tu as pu réaliser ça dans l'opéra La Neige en août, à Taïwan, avec un nombre d'acteurs sur scène prodigieux, un grand orchestre, puisque la musique de Shushuya accompagne de manière magnifique cette opéra La Neige en août. Puis ensuite, cette production, on a eu la chance de la voir à Marseille. Elle a été jouée à Marseille avec des chœurs français qui ont appris à chanter en chinois. Et donc là, c'est tout à fait différent. Il s'agit de revenir à une espèce de tradition, puisqu'il s'agit de la vie du 6e patriarche Huineng, le fondateur du bouddhisme zen, et qui fuit. Alors, ça fait penser à Cao Xingdian qui fuit à un moment de sa vie. Mais bon, ça, c'est mon interprétation. Et là-dedans, on peut voir un nombre de personnages extraordinaires qui semblent chanter comme l'opéra de Pékin, mais en fait, ça n'est pas de l'opéra de Pékin. Voilà, donc, est-ce que tu peux présenter aussi cet autre aspect de ton travail de dramaturge?
Voilà, c'est l'opéra La Neige en août. C'est une autre orientation que un exemple de mes recherches dans le théâtre, dans mon genre de théâtre. Parce que ça, c'est le théâtre moderne, contemporain, moderne, c'est on peut appeler ça le théâtre parlé. Comme les Chinois, on appelle, c'est le théâtre parlé. Voilà, ça veut dire appauvrir le théâtre. On ne sait que parler sur la scène. On a sacrifié le chant, on a sacrifié la danse, on a sacrifié la mime, on a sacrifié la clownerie, on a sacrifié l'acrobatie, et on a sacrifié aussi le combat. Vous voyez, dans le travail, dans le théâtre traditionnel chinois, même il y a le combat dans le théâtre. Voilà, il y a l'acrobatie, il y a le cirque, il y en a tout. Voilà, ça c'est le théâtre vraiment total, omnipotent que j'appelle. Moi, je préconise le théâtre moderne contemporain doit revenir à la source du théâtre. Voilà, c'est ça, c'est le théâtre omnipotent. Et on devrait revenir à un acteur, à un art de jouer, à l'acteur omnipotent. Ça veut dire un acteur peut être un clown, et voilà, s'il peut danser, il peut chanter, il peut faire l'acrobatie. Voilà, ce genre d'acteur génial. Et si on n'arrive pas, on peut aussi introduire dans le même spectacle, voilà, un acrobate, un danseur, une danseuse, un chanteur. Voilà, si un comédien ne peut pas tout faire, voilà, pourquoi pas? Cela s'explique pourquoi dans ma dramaturgie, voilà, j'écris pas seulement les paroles, comme ce qu'on entend maintenant. Voilà, on dit le texte. Voilà. La pièce de théâtre, c'est un texte. Je trouve que cela abauvrit voilà, le théâtre. Parce que pourquoi on n'introduit pas, on ne revient pas plutôt à tous ces potentiels théâtrales. Voilà, c'est pourquoi ça s'explique dans ma dramaturgie. Voilà, il y a la clownerie, il y a tout genre de choses. Souvent, j'introduis. Et dans cet opéra-là, c'est un grand opéra. Voilà. C'est tout à fait un exemple de mon genre de théâtre et j'ai travaillé très très bien aussi musical. Il y a la musique, il y a l'orchestre, voilà, grand orchestre, il y a un grand chœur. je travaille avec mon ami compositeur, Shishuya. Il était aussi parisien, chinois parisien. Il a fait son conservatoire de la musique à Paris. Il a déjà eu le diplôme de conservatoire de la musique à Shanghai. Et tout récemment, il est élu. Bon, c'est la première fois élu. C'est quand même une ouverture de la Chine. On commence à élu. Il est, c'est pas nommé. Il n'est pas nommé, il est plutôt par le vote, je pense, par le conservatoire. On a choisi comme le, maintenant le directeur de conservatoire de la musique de Shanghai. Voilà, ça c'est un ami compositeur. On a beaucoup discuté. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire la musique? J'ai déjà la dramaturgie, j'ai fait la mise en scène. Bon, je m'occupe de du décor. Et voilà. Mais la musique, moi, ça, c'est incapable de faire. Je dois voilà, lui demander de te mettre, de réaliser cet opéra-là. Lui, il est très, très, très disponible. On a longuement discuté. Alors, quelle musique on doit en avoir? Bien sûr, je dis d'abord, c'est pas la peine de prendre les mélodies, la même musique de l'opéra traditionnel chinois, parce que c'est une nouvelle création. Voilà. C'est pas la peine. J'aime pas ce genre de collage. Maintenant, ça se passe aussi. Alors, on fait une musique contemporaine, on fait un collage de morceaux de la musique traditionnelle. Je trouve que ce genre de collage, c'est pas une sérieuse création. Voilà. C'est un jeu. Voilà, c'est un simple jeu. Moi, je lui demande si on peut faire écrire une musique vraiment contemporaine. Une vraie création sans recourir à la mélodie, à la musique classique traditionnelle chinoise, une musique tout à fait moderne. Mais c'est pas un opéra à l'italienne traditionnelle non plus, parce que ça c'est à nos jours. C'est pas la peine de répéter l'opéra italienne. Voilà. Et non, c'est pas la peine aussi. Moi, je trouve pas. Ça m'attire pas parce qu'on voit beaucoup de la création de l'opéra contemporain occidental actuellement atonal. Alors ça, c'est moi, peut-être j'ai pas une écoute, une oreille qui s'adapte à ces choses d'expérimentation des sons. Voilà, c'est toutes sortes de sons. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de vraie musique. C'est peut-être ma lacune. Moi, je lui demande, recommande, si vous voulez écrire une musique, voilà, pas des sons, voilà, à tonal. Dans ce cas-là, oui, il a réussi, il est génial. Il a réécrit cette belle composition. Pas seulement moi, j'adore aussi mon chef d'orchestre. Lui, il adore, il trouve que c'est vraiment une création de l'opéra contemporain. Voilà, il l'a qualifié très, très. Il a toujours envie de relancer cet opéra-là. Mais malheureusement, c'est trop coûteux et trop grand. c'est rare de répéter, de reproduire.
Alors, on en arrive à la dernière facette, si je n'ai rien oublié de ton talent. C'est donc le cinéma. Et là, tu viens de dire que tu n'aimes pas les sons, une musique qui est trop atonale, mais dans ce qu'on va voir tout à l'heure, il y a des moments où la musique est tout à fait... ce n'est plus de la musique, ce sont des sons, justement. Alors, d'où vient cette envie de faire du cinéma, de parler par la voix cinématographique? Est-ce que c'est un complément de toutes les autres formes ou est-ce que c'est encore quelque chose de totalement nouveau et différent?
Oui, j'ai rêvé de faire le cinéma déjà il y a 50 ans. Ouais. Et d'ailleurs, mon premier scénario à écrire a été quand j'avais à ce temps-là à peine entré à l'université. C'était 9 ans, j'ai écrit déjà mon premier scénario. Voilà. Et après, de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, toujours le cinéma, c'est mon rêve. Parce que le cinéma, c'est tout à fait un nouveau genre de création artistique. Ça se compose tous les moyens. Toute création artistique peut entrer dans le cinéma. Voilà. C'est tellement, les moyens sont tellement riches. Mais pourquoi pas? Alors, ça, c'est. Et l'histoire du cinéma, c'est tellement court. C'est le plus court. Voilà, il y a que un peu plus de 100 ans, l'histoire de cinéma. Moi, le cinéma, ce n'est que le début, c'est un pépé, voilà. Par rapport avec les autres arts. Alors pourquoi ça, c'est, on doit former autrement, pas seulement dans les clichés qu'on entend. Maintenant, c'est la fiction ou bien le documentaire. Et il y a aussi, ça commence assez, par exemple, un film d'auteur. Oui. Mais peut-on aller encore plus loin ? C'est ce dont je rêve. Alors, ça, c'est faire un autre genre de cinéma qui est après, d'après, parce qu'il y a des cinéastes qui ont vu mes films, on trouve que c'est au-delà de nos critères éditoriaux. Voilà. Pourquoi pas faire des films au-delà des critères déjà définis actuellement. Voilà. Ça, c'est ce que je cherche. Que j'appelle ça, c'est le cinéma. J'appelle le ciné-poème. Ce thème-là, ce n'est pas moi qui invente. Ça existe déjà. On a qualifié déjà certains films comme ciné-poème. Mais moi, plutôt plus radical. Mon film, ce ciné-poème, ça veut dire sans aucune fiction. Voilà. Il n'y a aucune fiction, même quelquefois, il n'y a même pas de personnage. Mais on peut écrire aussi librement comme on écrit la poésie. Pourquoi j'appelle ce ciné-poème Parce que on peut utiliser ce moyen cinématographique qui est tellement riche pour, comme on écrit avec une plume, la poésie. Voilà, ça s'explique ma conception sur le cinéma. Voilà. Et vous allez voir un exemple que j'ai déjà réalisé, ce court-métrage « Après le déluge ». Oui. J'ai eu d'autres films déjà réalisés et avec deux amis de Marseille. Quand j'étais à ce temps-là à Marseille, c'était l'année quand on a profité de toutes ces conditions-là que la ville nous a données. Voilà, réaliser un autre film de long métrage, La silhouette, sinon l'ombre. Ça, c'est mon premier film. Après avoir eu le rêve de faire le cinéma 50 ans après, enfin, voilà, j'ai quand même réalisé ce film-là, et y compris actuellement, vous allez voir ce court-métrage. Parce que ça, c'est ce genre de film, vraiment, j'ai des rêves de faire du cinéma. Il y a aussi beaucoup de tentatives, pas seulement de ma part, aussi de producteurs de cinéma, chinois ou bien occidentaux. Ils essaient de m'introduire dans la production. Voilà. Mais finalement, ce qu'ils veulent accepter, je ne peux pas accepter, parce que ce n'est pas mon genre de cinéma. Ce que je propose... Et il trouve non, ça il ne peut pas accepter. Voilà, finalement, maintenant, avec le numérique, voilà, c'est beaucoup moins coûteux. Avec des amis, voilà, sans diffuseur, sans producteur, on peut réaliser.
Alors, effectivement, je m'aperçois que j'ai oublié une facette tout à fait primordiale de l'œuvre de Kao, c'est la peinture, bien sûr. Et on finira sur la peinture avant de passer la parole au public. Et donc, si vous avez quelques questions à poser avant qu'on voit justement le film Après le déluge, qui va, si vous ne l'avez pas déjà vu, qui va vraiment résumer tout ce qu'on a entendu ce soir, et qui va, je pense que tout ce qui a été dit éclaire la démarche de Kao Xingjian. Alors, en ce qui concerne la peinture, on a de multiples exemples maintenant de livres déjà qui sont sortis sur sa peinture, et puis aussi d'expositions qu'on a vues dans plusieurs endroits. L'année dernière, c'était au musée Wurth de près de Strasbourg, à Erstein. Et vraiment, on a vu déjà beaucoup de tes toiles. Moi, ce qui m'a frappé dans la dernière exposition à la Galerie Claude Bernard, c'est ce retour à l'utilisation du papier de riz et du pinceau et de la texture du papier. Et le moindre centimètre carré de la toile est une espèce de notes poétiques extraordinaires. On peut rester un temps fou devant la plus petite œuvre ou la plus grande. Il y a tous les formats. Pourquoi donc cette utilisation de l'encre de Chine, du noir, du blanc et toute la gamme des gris et du pinceau?
Et quand j'étais jeune, je faisais la peinture tout à fait à l'occidental, la peinture à l'huile. J'ai commencé très très tôt. Je me souviens, mes premières peintures à l'huile, c'était à 12 ans. Voilà. J'ai économisé un peu de l'argent de poche que ma mère m'a donné pour acheter en cachette, pour qu'elle ne sache pas les couleurs. Et puis même, ça c'est mon professeur de dessin, il ne savait pas que je fais la peinture. J'osais faire la peinture à l'huile à l'âge de 12 ans. Mais il est un vrai peintre. Je l'ai suivi son travail dans son atelier, comment il travaille, préparer la matière, tout ça. Alors, j'ai bien suivi. Et puis j'ai acheté des livres sur manuel pour la peinture à l'huile, comment faire préparer la matière, les couleurs, tout ça. En cachette, jusqu'à quand un jour il est venu, c'était une surprise. Alors, tu fais la peinture à l'huile. Voilà, c'est vraiment un peu impressionniste. Son exclamation, c'était comme ça. Oui, ça veut dire, là, j'ai déjà très très longtemps, toute jeune, j'ai fait la peinture à l'huile. Mais un jour, pourquoi j'ai arrêté? Voilà, ça, c'est ma première fois. La première fois, j'étais en France. Voilà. J'étais interprète de la première délégation des écrivains chinois. Et invité en France après la révolution culturelle. C'était fin des années. On s'est vu, j'ai rencontré Noël, on est devenu amis depuis cette année-là. C'était.
1978.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais j'ai vu, première fois, je suis allé au Louvre, au musée d'Orsay, et puis l'année prochaine j'étais en Italie, j'ai vu presque tous ces grands noms, des grands maîtres devant ces chefs-d'œuvre. Je me disais, est-ce que ça vaut la peine? Moi je continue ma pauvre peinture? Non, si je veux être un bon peintre, voilà, comment faire? Voilà mes premiers doutes, d'un coup, c'était mise en question de tout ce que je fais dans l'art pictural. Oui, voilà. Et après, une réflexion assez longue et compliquée, finalement, je trouve, je dois revenir à l'encre de Chine. Pourquoi revenir à l'encre de Chine? J'ai vu aussi à la Fondation, en France, la Fondation Maquette. Ça, c'est le dessin de l'encre de Chine de Picasso. Voilà. Et voilà, Picasso, un grand, grand peintre. C'est ça, un des plus grands que j'adore. Mais devant son encre, je ne peux pas vraiment faire l'éloge. Parce qu'il dessine comme tout genre de l'encre. Voilà. C'est simplement, il dessine avec l'encre. Mais c'est marqué l'encre de Chine. Voilà, je ne connais pas la richesse, la possibilité de l'encre. C'est tout à fait comme moi. Je ne connais pas, avant de connaître le vrai chef-d'œuvre, ce que j'ai trouvé, c'est mal reproduction imprimée à l'époque des années 40, 50 en Chine. C'est très, très mal imprimé et très rare de trouver des références. Jamais vu. Une œuvre originale, une peinture à l'huile. Moi, je ne connais pas cette richesse, la technique non plus. Je pense à ce Picasso, il ne connaît pas tellement bien vraiment l'encre. Voilà, je me disais, comme un grand maître peintre, Picasso, il ne connaît pas. Mais je connais bien, ça c'est tout ce qui est possible dans l'encre. Mais je ne veux pas non plus répéter mes ancêtres. Il y a là tant de grands maîtres aussi devant moi. Et il faut mettre des années et des années pour des exercices. C'est aussi un autre travail, basé sur la calligraphie. Si c'est avant pour le peintre traditionnel chinois, si on n'est pas âgé de au moins 60 ans, voilà. On ne peut pas dire que c'est un peintre. Et pourquoi je suis encore cette voie pour être reconnu comme peintre jusqu'à mon âge de vieillissement? Ce n'est pas la peine. Voilà. Alors, je dois chercher ma voie. Finalement, je trouve ma voie, c'est sur ces matières tout à fait traditionnel, avec l'encre, papier de riz et les pinceaux. Et après, j'ai fait une autre expérimentation, voilà, sur les grandes toiles. Pourquoi je fais sur les grandes toiles? Parce que si c'est sur le papier, il y a les formats, c'est des papiers artisanaux. On ne peut pas faire de grands formats. Aussi, la difficulté de montage, tout ça, de marouflage, on ne peut pas faire de très grands formats. Alors, on ne peut pas exposer dans le musée. Si un peintre fait ses tableaux, il rêve, bien sûr, évidemment, un jour être exposé dans le musée, dans ce grand espace-là. Voilà, si je fais la peinture, oui, bien sûr, voilà, je n'ai pas une grande ambition, mais j'ai quand même une ambition d'être exposé au musée. Voilà. Dans ce cas-là, je commence à aussi faire des essais sur le doile. Voilà. Ça s'explique pourquoi j'ai eu maintenant, ça c'est aussi l'encre sur toile et de très grand format. Et ça, c'est un long processus de réflexion et voilà, aussi de... Voilà, c'est un long parcours. Et aussi, il y a dans l'art pictural aussi, il y a une question profonde aussi, ça se pose. Alors, on a affronté, surtout après les années 70, 60, voilà, aussi la révolution dans l'art. Même, on a mis en cause la peinture. Voilà. Voilà, on dit la peinture est morte. Voilà. Comme l'histoire est morte, il y a beaucoup de ce genre de propos disant, voilà, ça c'est, on fait la révolution dans l'art, pas seulement la révolution dans la société aussi. Voilà. Ce genre de subversion, je ne suis pas d'accord dans ce cas-là. Mais peut-on encore faire la peinture? Peut-on encore faire la peinture après la mort de la peinture, cette proclamation de la mort de la peinture? Et aussi, devant vous, il y a des grands maîtres, voilà, de figuration devant vous. Voilà, on a fait une autre orientation. Au XXe siècle, il y a quelque chose de création artistique, picturale, vraiment importante, je trouve, c'est l'abstraction. Voilà. L'abstraction, vraiment, ça a bien affirmé sa position dans l'histoire de l'art. Voilà. On a presque un peu plus d'un siècle, l'abstraction est aussi déjà maintenant très, très affirmative dans l'histoire de l'art. Et ici, moi, je répète encore, voilà, l'abstraction de l'art, mais c'est déjà trop tard. Il y a tant de maîtres déjà devant moi. Voilà. Moi, ça ne m'excite pas de répéter encore, voilà, faire l'abstraction. Mais la grande figuration, voilà, tous ces grands maîtres-là, voilà, ça fait rêver, mais je ne peux pas répéter. Voilà. Et je ne peux pas non plus, j'arrive pas non plus à le suivre. Alors, où est mon orientation? Si je veux revenir à la peinture sans faire la révolution radicale de cet art-là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, vous allez voir mon exposition à la galerie Claude Bernard. Je trouve ma voie plutôt, c'est entre l'abstraction et figuration. Je trouve qu'il y a encore un vaste champ à explorer, que j'appelle c'est une évocation. Voilà, ce n'est pas représentation, ce n'est pas une expression comme l'abstraction. Voilà, si on revenir à bien réfléchir, quelle est la possibilité dans la création picturale de la peinture? Je pense qu'il y a encore l'autre voie qu'on n'a pas assez explorée, mais il y a déjà les pionniers comme Tonin. Il y a déjà, ouais. Mais il a déjà créé, trouvé cette orientation qui m'a beaucoup aussi suggéré.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe aux questions du public ?
Bonsoir. Ma question va porter sur l'aspect purement littéraire, en incluant le théâtre et la poésie, de vos schémas de pensée et de création. Donc je vais rester sur la création. Comment gérez-vous, à partir de concepts qui sont uniques dans votre tête, le choix et de votre expression, de votre formalisation littéraire et théâtrale entre le mandarin et le français ? Est-ce qu'il n'y a pas une grande difficulté, à partir de vos concepts, de mettre en forme justement votre pensée et son expression littéraire et écrite.
Entre les deux langues, surtout le chinois et le français. Ça, c'est les deux langues. Il y a très très grande différence. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble. Si c'est entre le français, et l'allemand, ou bien l'anglais, ou bien l'italien, ça c'est quand même, ça c'est assez proche. Si, mais le chinois et le français, ça c'est tout à fait comme parce que le chinois même, cette notion du grammaire n'existe pas. Voilà. Si le premier grammaire chinois écrit, c'est un chinois prêtre. Il a appris latin et français. Il a pour enseigner. Les prêtres français pour apprendre le chinois. Il a utilisé, il a emprunt cette notion du grammaire de la langue occidentale pour fabriquer, vraiment, il a fabriqué un grammaire chinois pour un manuel, pour écrire un manuel. Voilà, seulement il y a un peu plus d'un siècle. Voilà, ça veut dire, ça s'explique. Tous ces. Mais le chinois, qu'est-ce qu'il y a derrière cette langue-là? Il y a aussi une structure, mais une structure très stable. Voilà. Et c'est un bon chinois d'un coup. Voilà, on sait, c'est un bon chinois. Et là aussi, c'est mal écrit. Ou bien il faut corriger. Ça se voit. Mais seulement, le chinois, on est chinois, on peut. On est chinois, on a une solide base du chinois. À ce moment-là, on peut distinguer, voilà, on peut savoir. Mais ça existe aussi, mais qu'on ne peut pas vraiment définir comme le grammaire. Voilà. Mais c'est encore, ça reste bon, une polémique aussi entre les linguistiques chinois. Voilà, c'est autre chose, un autre débat à côté. Alors pour moi, si j'écris à la fois en français ou bien en chinois, moi, ça doit absolument séparer. Voilà. Si j'écris en français, il faut tout à fait baigner dans l'ambiance du français. À cette période-là, je ne lis pas en chinois, voilà, puisque je dois me concentrer à écrire. J'écoute la radio France Culture pour baigner vraiment dans l'ambiance, si je n'écris pas à ce temps-là. Voilà. Parce que voilà, cette émission, il y a souvent des beaux programmes, voilà, très littéraires. Dans ce cas-là, voilà, si on écrit et sans passer par la traduction. Si j'écris en chinois, bien sûr, voilà, ça c'est, j'ai aussi une recherche. Mon chinois, ce n'est pas non plus une chinois tout à fait... C'est aussi une certaine invention, surtout, par exemple, dans mon écriture romanesque « La montagne de l'âme », quelquefois dans mes pièces de théâtre aussi, voilà, je cherche un chinois, j'invente un chinois qui ne peut pas violer cette structure vraiment stable qui est engendrée dans cette langue-là. C'est la limite. Mais je fais aussi ma création dans cette langue-là. Alors, ça, c'est là. Les deux, dans ce cas-là, c'est tout à fait séparé. Mais il y a quelque chose aussi traduisible, communicable. Ça doit être c'est le travail de traducteur. Je pense, j'ai un grand respect, une admiration pour un bon traducteur. Il doit trouver une autre expression qui est principalement fidèle au texte original, mais c'est bien, bien écrit dans l'autre langue. Ça, c'est aussi, c'est un travail comme un écrivain. Voilà. Il fait vivre ce texte-là en notre langue. C'est un écrivain, voilà. Dans cette langue traduite. Voilà. Vraiment, ça, c'est aussi une création. Mais c'est aussi une création même plus difficile, parce qu'on a des contraintes. On ne peut pas écrire librement. Moi, je sais très, très bien. J'ai traduit mes propres pièces écrites directement en français, bon, en chinois, j'ai traduit en chinois. J'ai eu énormes difficultés. Voilà. Je dois quelquefois sacrifier, parce que je suis l'auteur. Je me permets. Voilà. Je n'ai pas de souci qu'on me critique, voilà, ta traduction n'est pas fidèle. Voilà. Je me permets de sacrifier quelquefois des choses phonétiquement ou bien musicalement très intéressantes en langue française, ou bien la structure grammaticale très très enchaînée, très très structurée, et des longues phrases, voilà, les rythmes, la musicalité, voilà, que j'adore. Souvent, pour construire une phrase comme ça, je dois mettre, ça peut arriver, une nuit et une journée pour bien construire une longue phrase. Voilà. Parce que cette langue-là, c'est ma maternelle. Je dois consulter les dictionnaires, lire, toucher, et puis montrer à Noël pour voir si ça passe ou non. Voilà, c'est ça. J'ai mis beaucoup de temps pour écrire les pièces de théâtre. Ouais. Mais si je traduis en chinois, ouais, c'est très difficile. Alors, je dois réécrire. Voilà. Justement, il y a cette semaine-là, il y a quelques jours, j'ai un professeur italien. Elle est venue, elle est spécialiste pour, comme dit-on, écrire en plusieurs langues. Voilà. Elle fait la recherche. Voilà. Et tout, moi, c'est un exemple pour ses études, ses recherches. Alors, on a bien parlé de ça. Voilà, c'est pas la traduction, c'est une réécriture. Voilà. Ça se passe, les deux langues, pour moi, ça se passe comme ça. Voilà, si j'écris en français, sans penser à passer par le chinois, c'est au contraire aussi. Voilà, voilà, ça, c'est tout à fait... mais c'est traduisible quand même.
Une autre question?
Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous rêvez en français, en chinois ou en invocation?
Oui, ça dépend. Voilà. La plupart, je rêve en chinois. La plupart. Mais quelquefois, ça m'arrive, dans le rêve, c'est le français. Oui. Mais jamais les deux en même temps, non.
Bonsoir. Tout d'abord, premièrement, je me permets d'exprimer mon admiration pour vous. Parce que déjà, tout le monde sait que vous êtes le premier Chinois qui a pris le prix Nobel. Mais pour moi, je pensais que vraiment que vous méritez de ce prix-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien en Chine que l'art, pour moi, c'est presque impossible. On peut admirer Li Bai, on peut admirer Du Fu, mais dans l'art contemporain, dans la littérature contemporaine, vraiment que... C'est très rare de trouver quelqu'un qui écrit comme vous. Je veux dire, il y a une sublimation du réel dans l'écriture. Parce que j'ai lu votre livre, comment ça s'appelle, L'homme seul, qui... je ne sais pas comment ça traduit.
Le livre d'un homme seul.
Oui, oui, c'est ça. Ça traduit comme ça. En fait... Je trouve qu'il y a quelque chose de très souffrante, mais vous la sublimez et je ne sais pas comment dire, mais parce que ma famille a aussi une très grande souffrance dans la culture, dans la révolution culturelle et tout ça. Et je me souviens très bien quand j'ai lu ce livre, j'ai pleuré avec ma mère. Et c'est vraiment très touchant et une très grande richesse dans votre livre. Voilà, donc ma question pour vous, ça sera, est-ce que vous pensez que la souffrance est nécessaire dans une création artistique? Et deuxièmement, vous pensez que la Chine, enfin l'art de la Chine d'aujourd'hui, elle devrait prendre quel chemin pour avoir son gloire d'antiquité, je veux dire, pas vraiment que prendre le truc occidental, mais aussi avoir notre propre chemin, parce que quand moi je recherche, mais je suis totalement perdue, parce que la Chine aujourd'hui, l'art, c'est impossible avec la bureaucratie, avec toutes ces contraintes, et c'est pour ça que je suis venue en France. Voilà, c'est ma deux questions. Merci beaucoup.
Si, voilà, je réponds à la question. Si, oui, là, dans mes écritures, bien sûr, derrière, il y a une expérience de souffrance que j'ai vécue en Chine. Et même si cela a duré à certains temps, quand je fais, à l'époque, quand je faisais des rêves, c'était toujours cauchemar. Voilà, ça, je pense, c'est en subconscience. Ça se révèle, cette souffrance-là. Et aussi, bien sûr, c'est aussi engendré dans certaines de mes écritures. Mais j'ai déjà, comme tout à l'heure on l'a dit, alors j'ai déjà une autre vie. Une autre vie, c'est déjà 23 ans. Voilà, c'est la seule. Mes pages de la Chine, c'est déjà définitivement tourné. Voilà. J'ai une autre vie et je continue à écrire. C'est pas seulement la souffrance, voilà. Il y a d'autres inspirations, voilà. Et il y a une autre, tout à fait une vie tout à fait à occidentale. C'est Paris, c'est comme chez moi. C'est l'Europe que j'adore. Voilà. Je me sens tellement européen aussi. Je défends cette grande culture européenne. Cette grande richesse. Voilà. Et tout récemment, en Tokyo, il y a quelques mois, je dis, peut-on rêver une nouvelle renaissance? Peut-on rêver une nouvelle renaissance? Je pense que c'est aussi la question qui se pose aujourd'hui. Voilà. Peut-on, même en France, en Europe, peut-on rêver encore une renaissance de l'Europe? On ne sait pas. Voilà, c'est une grande question qui se pose devant nous. Voilà. Mais ce n'est pas une souffrance. C'est trop compliqué. Voilà. Ce n'est pas une souffrance. Souvent, il y a une réflexion profonde. Ça peut pousser. Voilà, une quête profonde. Ça peut pousser à écrire. Et j'ai aussi écrit surtout cette série de pièces de théâtre qui n'a aucun rapport avec la Chine. Voilà. On peut dire que c'est tout à fait très, très occidental. Ouais. Même, ça peut être très, très profond. Voilà. Très, très français. Ouais. Aussi, finalement, je pense que c'est aussi, dans ces pièces-là, c'est universellement parlant pour tout le monde. Par exemple, alors, j'ai une pièce de théâtre c'est quête de la mort. Voilà, c'est une quête de la mort. De la mort de quoi? C'est pas de la mort physique de l'homme, c'est la quête de la mort. En fait, c'est quête de la mort de l'art, de nos arts. Voilà. Parce que nos historiens souvent disent l'art est fini, l'histoire est finie. On a déjà vécu ce 20e siècle. Il y a tant de révolutions et tant de subversions. Voilà. Et voilà, cette question, la pièce, quête de la mort, c'est plutôt cette quête sur la mort de l'art, soi-disant la mort de l'art. Mais si l'humanité existe, la création artistique, l'art existe, On peut pas facilement, trop simplement dire l'art est mort. Non, l'art n'est pas mort.
Monsieur Xinjian, avant de voir votre exposition chez Claude Renard, je venais de finir La montagne de l'âme. J'étais complètement dans votre poésie, écrite, exprimée, en lettres, en mots. Et quand j'ai vu votre exposition, je me suis trouvée devant les images, la poésie des images. Et j'étais donc éblouie une fois de plus. Alors, je vous prie de me répondre, quand vous êtes devant le tableau, quand vous faites vos évocations, est-ce que vous avez imaginé d'avance votre tableau ou il naît en faisant au cours de la route? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de préparé et qu'est-ce qu'il y a spontané sur place, s'il vous plaît? Merci.
Tout à l'heure, je dis que c'est évocation, c'est plutôt une réflexion théorique. Voilà. Le vrai travail, quand on se met au travail à peindre, non, il n'y a pas cette évocation, ce concept à la tête, non. Voilà, ce concept vient plutôt d'une conclusion théorique d'après les expériences. Qu'est-ce qu'on fait devant le papier ou bien devant un doigt, le vierge? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu fais des études ou bien des croquis à l'avance, des conceptions, mais sans vraiment se mettre, avant de se mettre au travail, oui, quelquefois, si j'ai du temps, je peux prendre un papier et ça c'est noter les réflexions, voilà. Plutôt, c'est pas les réflexions, noter plutôt la disposition de l'espace. Parce que les tableaux, l'image, ça se réalise dans un espace, voilà, à deux dimensions. Voilà, dans cette contrainte de deux dimensions, qu'est-ce qui est possible de reconstituer un espace très compliqué, voilà, inventé. Ça, c'est la possibilité de la peinture. Mais quand je me mets au travail, non, je mets tous ces papiers à côté. Non, c'est pas voilà, plutôt. Je dois choisir d'abord la musique. Voilà, une musique que j'ai choisie très strictement. Il faut cette musique qui me parle. Souvent, c'est la musique de Bach. Voilà. Ou bien de Vivaldi, voilà, c'est ce genre de musique baroque, ou bien une musique de messe, ou bien ce genre de musique religieuse, très classique. Ou bien, l'autre côté, la musique très contemporaine, mais aussi j'ai une sélection très, très stricte. Ce n'est pas toutes les musiques contemporaines qui me parlent. Comme tout à l'heure, il y a des exercices de sons, ça ne me parle pas. Mais si tout à l'heure vous allez voir mon film avec des sons, mais on travaille avec un excellent spécialiste de sons, on a travaillé musicalement. Ce n'est pas la musique, mais on travaille les sons musicalement. C'est Thierry, voilà, il est excellent, Samuel, spécialiste de sons, vous allez voir. C'est autrement, si je parle de sons. Voilà. Je dois faire une sélection des auteurs, des compositeurs contemporains, comme ce qui me parle. Ça, c'est ce Polonais vient de décéder il y a seulement quelques semaines. C'est Goreski, c'est Polonais. Voilà. Ou bien ça, il y a quelques années, il est décédé. Aussi, c'est Alfred Schnittke, c'est russe. Oui. Ou bien c'est encore plus contemporain, c'est comme Steve Reich, voilà, cet Américain. Ouais. Voilà, ce genre de musique contemporaine, ça me parle. Voilà. Je prépare d'abord choisir la musique, et puis si une musique est choisie, pendant tout mon travail, des jours, et souvent je travaille aussi quelquefois le soir, la nuit, et cette musique qui m'accompagne tout le temps, jusqu'à le tableau est fini. Et à ce temps-là, la musique me suggère une image, une vision intérieure qui est née.
Encore une question, la dernière, parce que ensuite.
Bonsoir, monsieur. J'aime bien vos livres. Voilà, parce que j'ai étudié la littérature quand j'étais en Chine. Alors, j'ai deux questions. Alors, la première question, parce que on dit que l'écriture, c'est une envie, en fait. Je voudrais savoir de votre part, peut-être de votre jeunesse, c'est-à-dire, vous avez choisi l'écriture ou bien c'est l'écriture qui vous a choisi. Vous voyez, parce que enfin, c'est une question un peu philosophique. Vous voyez, est-ce que vous vous sentez ce besoin de vous exprimer ou ce besoin de vous écrire, de faire entendre votre voix. Voilà, c'est ma première question. Donc, ma deuxième question, c'est que qu'est-ce que vous lisez de votre part des textes ou des livres ou des auteurs chinois, c'est-à-dire les œuvres que ça peut vous intéresser ou bien ça vous inspire ou bien ça vous donne une autre façon de... Ben, je ne sais pas, peut-être vous êtes en Europe depuis longtemps que... je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lisez? Voilà.
Oui, alors plutôt tout de suite, deuxième question, c'est très simple de répondre parce que j'ai déjà... j'ai une bibliothèque dans ma tête de la grande littérature chinoise. J'ai lu énormément, voilà, incroyablement beaucoup. Voilà.
Contemporaine, non?
Quel auteur, dans quelques livres, c'est innombrable. J'ai lu des auteurs chinois innombrables, archaïques, classiques, jusqu'à la littérature moderne. Voilà, ça c'est la première question. Dernière question. Il y a l'autre question, ça c'est si c'est l'écriture. D'abord l'écriture, ou bien ça c'est qui me pousse à écrire, ou bien ça c'est j'écris mon écriture. Voilà, ça c'est plutôt, oui, tout à fait philosophique. Mais peu importe pour un auteur. Voilà. Pour un auteur, pour la personne qui écrit, je pense, ça c'est immédiatement, quand on entend cette voix intérieure qui parle, alors on est obligé de faire sortir cette voix. Ça veut dire, l'écriture, je pense, mon expérience, ça vient de la solitude d'abord. Quand j'étais en Chine, voilà, bien sûr, voilà, c'était très difficile de se communiquer avec les gens, mais même c'était dangereux à mon époque. C'était dangereux de parler ce qu'on pense, vraiment. Alors, le seul moyen de se faire entendre, c'est l'écriture, silencieux, oui, même en cachette, souvent, voilà. C'est pourquoi ça s'explique. Et après, j'ai beaucoup brûlé mes manuscrits, mais j'ai beaucoup brûlé, beaucoup de fois, mais je continue à écrire parce que j'ai besoin de réfléchir, d'entendre ma propre voix, parce que seulement en parlant, on commence à penser. Ouais. Sinon, il n'y a pas de pensée. Si on n'écrit pas, il n'y a pas de moyen de se communiquer avec les autres. Ta vraie pensée à ce temps-là, oui, c'est la pensée est stoppée. Voilà. Il n'y a pas de pensée. C'est pourquoi ce lavage cérébral pratiqué par le parti communiste, c'était ça. Voilà. Faut arrêter de penser. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais si on n'arrête pas de penser, on a toujours cette envie de s'exprimer. Voilà, c'est aussi une façon d'affirmer d'avis ton existence tout à fait individuelle. Voilà. Ça, c'est, je pense, c'est la naissance et le besoin intérieur de l'écriture.
Ok, merci bien.
Merci beaucoup, Gao Xingjiang. Avant de nous séparer, donc, nous allons projeter votre film poème Après le déluge, qui dure une trentaine de minutes.